L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Un numéro de l'Afrique dans tous ses états, un numéro spécial. Spécial parce qu'il a été construit à partir d'un voyage effectué par l'une de nos animatrices, Marie-Agnès Salezada. Bonjour Marie-Agnès.
Bonjour Guylaine. Nous étions plusieurs à découvrir le Sénégal, pour certaines qui ne l'avaient jamais visité, et vous faisiez partie du groupe,
Je me sens partie.
Guylaine Dubois.
C'est ça. Je faisais partie du groupe, mais aujourd'hui, Marie-Agnès, c'est vous, notre invitée de l'Afrique dans tous ses états. Alors, donc ça s'est passé au début du mois de février dernier. Et vous nous avez ramené, Marie-Agnès, votre façon à vous de voir le Sénégal, votre manière de poète.
Alors... déjà, quand nous y étions, j'ai été sollicitée pour écrire de la poésie. Et j'ai eu quelques plages d'inspiration.
D'accord.
Dans ce poème que je vous offre, qui est inspiré de l'Auvergnat de Georges Brassens, à la mode de l'Auvergnat de Georges Brassens, mais en remerciement au peuple du Sénégal et à toutes ces personnes que nous avons côtoyées, qui nous ont guidées avec tant de gentillesse et nous ont reçus avec beaucoup de bienveillance. Il est à toi ce poème, toi l'Africain, qui couvrit d'une couverture la rondeur de l'épaule, lorsque le chant des étoiles frissonnait sur la peau. L'art du thé sous l'arbre à palabres, amer comme la mort, doux comme la vie, puis sucré tel l'amour dans le dénouement des tensions. Il est à toi ce poème, toi le guide attentionné, mena à la découverte du peuple Peul, Wolof ou Serer, pour toi. Pas d'impatience au vu de tant de... Pourquoi ? Il est à toi ce poème, toi, belle au port de Rennes, qui ouvre les saveurs ocrées, marie les épices avec application pour le thieboudienne en offrande. Il est à toi ce poème, toi, l'hôtesse de clarté, aux portes béantes de sa demeure, Bougainvilliers, Baobab chacal, eucalyptus et anacardier. Il est à toi ce poème, toi aux ondulations de gondoliers à la force des poignets, vers le saunier guinéen pieds nus dans le lac rose aux cristaux d'efforts ruisselants. Il est à toi ce poème, toi le piroguier, fierté de la mangrove, savoir ornithologique, poisson serpent, vanneau armé et pélican fondant sur l'île nourricière. Il est à toi ce poème, toi la villageoise de la concession familiale, rassembla les enfants, joie de la danse et de la fête dans l'accueil de l'étrangère. Il est à toi ce poème, toi guide à bandilla, raconte girafe, singe patasse, rhinocéros dissimulé sous le gommier blanc, en la savane arborée. Il est à vous ce poème, enfant talibé, petite main à la peau meurtrie, qui implorait de cet immense sourire une modeste obole, vous fit saigner nos yeux. Il est à toi ce poème, peuple ami sans rancune, qui gomma injustice et cruauté du passé dans le grand rire du fleuve Sénégal.
Donc sur FM+, pour notre émission L'Afrique dans tous ses états, nous parlons Sénégal. Nous avons entendu juste à l'instant, juste avant la kora, cet instrument national du Sénégal, nous avons entendu vos impressions, Marie-Agnès, finalement, de ce pays. De belles impressions. Vous avez évoqué des noms qui nous étaient très familiers dans ce pays-là.
Oui, et puis des paysages que nous avons visités, découverts, traversés, et beaucoup de personnages, j'ai regroupé de nombreux personnages.
C'est amusant ce clin d'œil, Auvergne-Sénégal, on fait un grand écart, mais finalement, ça s'harmonise. Ça s'harmonise entre le texte de Brassens et le Sénégal.
Ah oui, par rapport à... C'est vrai que c'est un grand écart, mais c'est...
Mais c'est astucieux.
Non, c'est,
mais
c'est un remerciement de la même façon que Brassens l'a fait pour l'Auvergnat et ces personnes qu'il a rencontrées.
Absolument, Alors, par exemple, on va peut-être évoquer le tiboudienne.
Alors, le tiboudienne, c'est le plat national sénégalais. C'est un plat à base de boulettes de poisson. Donc, le poisson est haché et il y a aussi le poisson sur le... Alors, le riz, il me semble.
Hein. Dans le tiboudienne ?
Oui.
Oui, il y a du riz, il y a du riz du poisson.
Du riz du poisson.
De la tomate.
Oui, voilà. Des épices, enfin c'est relevé, c'est très goûteux,
c'est
ça nécessite bien 3 heures de travail si j'ai compris. Hein.
Couper les oignons.
Ça avait l'air très long, ça avait l'air très long.
Très long comme préparation. Après vous avez évoqué plusieurs noms d'oiseaux. En effet, nous avons vu des oiseaux sur le lac Rose notamment. Vous en avez évoqué quelques-uns et peut-être d'autres lieux encore. Le vanneau armé, vous avez évoqué.
Oui, nous avons fait des promenades, enfin des... Naviguer en pirogue.
Naviguer.
nous sommes laissés emmener en pirogue.
Ouais.
Nous avons été embarqués en pirogue parce que pour la navigation, nous n'y étions pas pour grand-chose. Mais nous avons traversé une réserve ornithologique.
Pas loin de Saint-Louis.
Pas loin de Saint-Louis.
Le Djoudj. Avec des réserves d'oiseaux.
Alors, c'est une des réserves les plus qui est protégée hein, par le...
C'est une réserve nationale.
Nationale.
Ouais. Ouais, absolument.
Et elle foisonnante d'oiseaux. Alors, des pélicans
à ne plus savoir où regarder.
Alors, le pélican, si j'ai bien compris, il ne plonge pas très profondément. Il reste à un mètre de la surface, alors que le cormoran arrive à plonger à 6-7 mètres. Donc, c'est tout un tas de choses qui nous ont été enseignées par le piroguier. Le cormoran plonge très profondément, fait remonter le poisson à la surface. Le pélican n'a plus qu'à le récupérer à peu près à moins d'un mètre de la surface et le transporte sur l'île nourricière, une île sur laquelle l'attend les petits. Et le pélican arrive à retrouver son petit sur cette nuée d'oiseaux et va procéder au gavage. Donc, il va arriver à gaver le petit pélican pour le nourrir jusqu'à ce que le pélican atteigne un âge suffisant pour lui permettre de s'envoler vers d'autres contrées. Si j'ai bien compris, plutôt vers l'Afrique du Sud.
Alors, au-delà des oiseaux, vous avez aussi évoqué le rhinocéros et la savane. Et là, il me semble que ça fait allusion à cette réserve non loin d'Humbourg où nous avons pu admirer embarquer là cette fois-ci dans une jeep des rhinocéros, des girafes, des zèbres.
Voilà, c'était la réserve de Bandia et chaque fois que nous avons été guidés par un guide, ils nous ont éblouis de leur savoir. Que ça soit Maudou qui connaît extrêmement bien tout ce qui se passe dans son pays, qui n'est jamais collé par la moindre question.
C'est ça. Donc Maudou c'était le guide et nous allons l'entendre à la fin de cette émission évoquer son propre pays et l'impression aussi qu'il a lorsque les touristes européens viennent lui rendre visite. Mais ce sera pour la fin de l'émission.
Oui. Donc, le guide piroguier qui nous a emmenés à la rencontre des oiseaux, qui était pareil, incollable sur toutes ces espèces d'oiseaux. Alors, il y a l'oiseau serpent, je reviens un peu, qui a un cou très très long, donc qui évoque la morphologie du serpent. Des aigrettes, les pélicans, les cormorans, un oiseau au bec aplati... Ah, j'ai un trou de mémoire. Spatule, l'oiseau spatule. Une multitude d'oiseaux, de toute façon. Nous avons vu quelques flamants roses aussi en arrivant vers la réserve. Donc, en fait, ne serait-ce que pour la qualité de... Ça pourrait être, pour les passionnés d'ornithologie, c'est un voyage très riche et très enrichissant. Après la réserve de Bandia, bon ben ce guide aussi était très érudit par rapport à tout ce qu'il nous a expliqué. autour des animaux, également autour des arbres, de la savane arborée. À un moment donné, je parle du gommier blanc. Il s'agit de l'acacia. L'acacia qui est revêtue apparemment d'un champignon rouge au niveau du tronc, mais qui le protège, ce champignon, loin de l'attaquer, le protège. Nos guides nous ont présenté bien sûr le baobab, dont les vertus sont aux mille utilisations, le fruit qui sert à faire de la confiture, la racine qui protège. Je ne sais plus trop de quelle maladie, mais enfin, qui a des vertus thérapeutiques. Tout ce qui est... il fut un temps où la résine était utilisée pour fabriquer des tableaux et pour protéger l'arbre. On est passé à des résines synthétiques. Et...
Alors, vous évoquez aussi, dans ce poème, les enfants talibés.
Oui, je parle des enfants talibés. Je pense que c'est une des choses qui laisse une des plus fortes impressions. Une impression très forte, ce sont ces petits-enfants, alors des petits-enfants, dont l'éducation religieuse a été confiée par les parents à des maîtres coraniques. Ce sont des tout petits enfants. Je ne peux pas me rendre compte quel âge ils pouvaient avoir, mais dans les plus jeunes, 6-7 ans, enfin vraiment des enfants très jeunes. Et donc ces enfants doivent se débrouiller par eux-mêmes pour trouver leur nourriture. Donc ils sont nourris par la générosité des villageois, des gens qui habitent autour, qui leur réservent une part de nourriture. Et ils se doivent aussi de ramener quelque argent au maître coranique qui va après reverser. Alors après, c'est une histoire de pyramide qui reverse l'argent. Et tout cet argent sert à des différents plans d'édification des mosquées, au niveau de la structure religieuse. Et donc, ces petits n'ont rien, sont pratiquement nus, pieds nus. Ils sont pieds nus. Sont rasés pour la plupart, avec parfois le cuir chevelu abîmé. On voit que la vie est très très difficile pour eux. Et bon, un t-shirt, un short, le minimum. Et ce que nous expliquait notre guide, certains arrivent à apprendre des métiers. Il peut arriver qu'ils apprennent un métier. Ils sont gardés par le maître coranique jusqu'à ce qu'ils arrivent à une certaine connaissance du Coran, ce qui est quand même assez compliqué parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe. Donc c'est quelque chose qu'ils apprennent et qu'ils restituent par cœur, les sourates. Et parfois certains peuvent accéder à cette connaissance pour devenir maître coranique à leur tour, et d'autres sont relâchés au moment de leur majorité, j'imagine, où ils réintègrent leur famille, mais ils sont, ayant vécu dans la rue pendant plus d'une dizaine d'années, ils sont vraiment très difficiles à réinsérer dans la société. Donc c'est déjà la mendicité pose question. On aimerait pouvoir entrevoir une solution pour cette enfance.
Autre commentaire à partir de ce poème? Où est-ce que nous arrêtons là? J'avais repéré encore la mangrove.
La mangrove, alors la mangrove est la fierté de certaines régions, dont cette île de Fadjout que nous avons visitée et qui existe depuis le néolithique. J'ai découvert ça, c'est un récif de coquillages qui a été créé. Et cette île de Fadjout, alors contrairement au Sénégal qui est majoritairement musulman, cette île est majoritairement catholique, avec un cimetière catholique musulman. Et il est protégé par l'UNESCO, ce village, il me semble. Il a été donc il y a des projets qui ont permis d'amener l'eau à l'intérieur du village, amener l'eau courante. Enfin, beaucoup de progrès social dans ce pays. Donc, j'ai un peu perdu la question.
C'était sur la mangrove.
Voilà, sur la mangrove. Donc, en fait, voilà, la mangrove arrive jusqu'à Fadjout. Nous l'avons rencontrée dans plusieurs endroits, la mangrove. Et la mangrove, alors, était exploitée par le Sénégalais pour en faire des petits objets, parce que c'est un bois imputrescible. Donc, on arrivait à fabriquer des objets. Donc, il y a eu un déboisement. Et la fierté des guides qui nous menée à travers la mangrove était de nous expliquer que cette mangrove était replantée par des volontaires des villages de façon à recréer cette richesse, parce que la mangrove, c'est aussi le lieu d'habitat des espèces, des oiseaux, de ces oiseaux en particulier qui créent cette richesse ornithologique.
À nouveau dans Afrique, dans tous ces états sur FM+, nous partons au Sénégal. Nous vous emmenons au Sénégal avec la poésie de Marie-Agnès Salezada, avec laquelle, toutes les deux, bien sûr, nous avons voyagé dans ce pays. Et nous nous sommes arrêtés, Marie-Agnès, dans un écolodge, dans le désert de Lumpul.
C'était une découverte du désert, une découverte de plus. Moi, je n'avais jamais été à la rencontre du désert.
Nous avons fait du chameau.
Voilà, déjà, du dromadaire.
Du dromadaire,
où nous avons réussi à...
Ne pas tomber.
À ne pas tomber, à être deux personnes sur ce dromadaire. Une personne sur la selle qui était quand même assez relativement confortablement installée. Et la deuxième qui était derrière, beaucoup moins... dans une situation beaucoup moins stable. Après, moi, ce qui m'a impressionné dans ce désert, c'est la couleur du sable. J'ai pris quelques photographies en macro pour voir la couleur du désert. Donc, il y a des teintes de rose, un rose très prononcé, de bleu et de blanc-gris. Et ça a été un étonnement pour moi. Alors, bien sûr, au moment du coucher du soleil, le soleil fait chanter les couleurs, en particulier le rose. Et au moment du lever du soleil également, où nous nous sommes levés de bonne heure pour aller admirer ces teintes du désert.
Mais avant de nous lever de bonne heure, nous avons passé une excellente soirée, Marie-Agnès. Vous avez été initiée à la coutume du thé vert. Nous avons dansé autour du feu. Et juste après donc, cette danse, nous avons donc bu le thé, et puis nous avons été rejointes, ou plutôt nous avons été invitées par trois jeunes hommes qui étaient là. L'un est cuisinier, l'autre était barman, et le troisième faisait le pain. Nous avons le boulanger, le cuisinier et le barman. Et vous allez comprendre que ce sont des trois garçons qui sont là dans cet écolodge de Lumpul pour accueillir les touristes. Un écolodge qui n'est pas ouvert toute l'année, qui ferme pendant la saison des pluies. Et vous allez comprendre aussi qu'ils retournent chez eux où ils sont attendus pour les cultures à faire. On écoute et on se parle tout de suite après.
Je fais la cuisine, je suis cuisinier.
Qu'est-ce que tu aimes cuisiner en particulier?
Cuisinier, j'aime bien cuisiner parce que depuis 2009, on est là avec les touristiques, les Espagnols, des Belges, des Canadiens, tout le temps on est là. Voilà, moi j'aime bien le tourisme.
Et après les produits, d'où est-ce qu'ils proviennent? Les produits, d'où est-ce qu'ils viennent?
Les produits, ils viennent d'ici, des gens de Lumpul, gens de Niaï.
De Niaï.
Niaï, oui.
Alors, c'est des cultures maraîchères qui sont du pays?
Oui, c'est la culture de maraîchère. On culture ici des oignons, des tomates, des carottes, des choux, des manioc. Oui, on culture tout ici.
Et en ce qui concerne la viande?
Les viandes, oui, on va acheter ici les moutons. Parce qu'on va berger ici à côté, voilà, les viandes, les moutons, voilà.
Et vous avez appris à la maison, avec la famille, à faire la cuisine?
Oui, à la maison, enfin là-bas avec les familles, avec ma grand-mère et mon père, voilà, et ma mère et tout, ma petite sœur, voilà.
Donc, traditionnellement, ce sont les femmes qui cuisinent dans les maisons, dans les foyers?
Oui, à la maison, les femmes, on va préparer les cuisines, on va préparer les riz poisson, où il y a ça poisson, où il y a ça poulet. Oui, ici, mais moi, je vais aller à la maison pour poser une semaine ou 15 jours. Souvent, je demande les femmes, il faut rester aujourd'hui chez moi, puis préparer les cuisines pour préparer les plats. On est, oh, bah, quand c'est bon, on est content, voilà, c'est bien avec les enfants. Ok, madame, merci beaucoup. Merci et toi, bonne saison et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour Amadou, donc toujours à Lumpul.
Bonjour madame.
Alors vous, dans ce centre de vacances, quelle fonction exercez-vous?
et donc de faire du pain local qu'on construit avec la fourre, et donc on le construit la terre du termitaire.
Et le blé, est-ce que c'est du blé qui vient du Sénégal, est-ce que vous savez?
Donc c'est du blé importé.
Donc là, vous êtes dans un centre touristique. Est-ce que c'est une expérience enrichissante intellectuellement et au niveau des contacts?
Ah ouais, toujours. Donc ça nous donne votre expérience. Et donc nous, souvent, on a deux jours dans la semaine de repos.
Deux jours de repos, vous retournez au village. Et quand vous retournez au village, il y a du travail aussi qui vous attend?
Ah ouais, donc souvent je pars dans les champs pour faire des cultures. Et donc il y en a des carottes, des navets, des pommes de terre, et des oignons, et des piments, et des poivrons, et des choux, et des moignons aussi. Après le désert, et donc il y en a les arbres qui sont dans le désert, donc c'est des eucalyptus aussi.
Et vous nous avez accueillis autour d'un feu de bois?
Avec du thé à la menthe.
Avec du thé à la menthe, excellemment préparé. Et qui est-ce qui est musicien parmi vous? Non, juste...
Et donc c'est moi et Sadibou et Babacar et Mamadou. Donc on joue du djembé.
Et merci beaucoup, Mamadou.
Ok, merci à vous aussi.
Alors bonjour Mbargou.
Oui, je suis un Sénégalais d'origine Paul. Bon, là, en ce moment-là, donc, on peut dire que je suis en responsable bar réceptionniste. Et en même temps aussi, j'occupe l'accueil. Et je pouvais dire que je suis là de faire plaisir pour les clients. On a les tantes, on peut dire que c'est des tantes qui viennent entre la Mauritanienne et de la Maroc. C'est des tantes qui sont fabriquées au niveau des Mauritaniennes et c'est des tantes tissus. Oui, là, c'est une saison, on peut dire que c'est pas une saison de la pluie. Donc, on est une saison de touristique pour l'instant.
Alors, une fois que la saison touristique est terminée, qu'est-ce qui se passe?
Parce que si la saison de touristique est terminée, on peut dire qu'on s'approche un tout petit peu de la saison de pluie. Et donc, il y aura quelque chose au niveau du travail, quelque chose qui sera se diminuer. On peut dire que c'est de l'autre côté des tentes marocaines. Qui sont faits avec la poêle de chameau. C'est les seules tentes qui seront se démonter. Et par contre, on va se fonctionner de l'autre côté. Et du coup, il y aura la protection au niveau des tentes. Parce qu'il y a des bâches qu'on va se mettre en haut pour un peu protéger la pluie qui sera.
Donc, si j'ai bien compris, pendant la saison des pluies, vous continuez à rester ici à travailler à l'entretien des tentes, du matériel?
Effectivement, madame, on continue de l'entretien aussi des tentes. De fait, il y a certains des clients qui ne pourra pas venir de ce temps-là ou pleine saison, mais ils se choisissent de venir au niveau de la saison de pluie. Comme on peut dire que les Espagnols et les Italiens, ils sont choisis que la saison de pluie. C'est pour cela qu'on fonctionne avec la saison de pluie, de maintenir les tentes et en plus de recevoir les Espagnols, les Italiens qui ont le choix de venir ce temps-là.
Ben, on vous remercie pour votre témoignage.
Ben, merci beaucoup, je vous en prie.
Bien, c'était trois interviews qui ont été prises comme ça, spontanément autour du feu dans l'écologe de Lompoule, un lieu assez magique finalement, dans lequel les touristes, alors c'est très touristique bien évidemment, c'est aménagé pour nous occidentaux, où on dort sous la tente et même un peu à la belle étoile.
Sous la tente, sous la moustiquaire, la salle de bain est en plein air, sous l'eucalyptus, il suffit de lever les yeux, on voit les étoiles, ou alors la journée, le ciel bleu, avec le... Mais tout est très beau, des palissades en feuilles d'eucalyptus, c'est du mobilier contemporain, on va dire... Transporter dans le désert pour plaire aux touristes
pour plaire
que
aux
nous
touristes,
sommes.
Voilà, soyons réalistes et lucides. Alors, il se trouve quand même que le Sénégal a plusieurs écologes comme ça dans son pays et nous nous sommes rendus dans un deuxième écologe qui était lui tout près de la région de Sali et nous avons vécu là encore au bord d'un lac. pas loin de la Somone, pas loin de Hembourg, un endroit qui était aussi magique et aussi aménagé de cette façon-là. À cette occasion aussi, nous avons pu découvrir la mangrove et la balade, la fameuse balade en pirogue. Nous avons tenté de pêcher.
Et également la promenade en TGV. C'est une charrette à grande vibration.
C'est cela. Donc voilà,
c'est une charrette en bois, ouais. Un plateau tiré par un cheval. Alors, comme nous étions des touristes, nous avons eu droit à une petite mousse de 5-6 cm. Mais pour un peu plus de confort, pour nous offrir un peu de confort, mais il faut s'accrocher après le rebord de la charrette pour arriver à ne pas avoir peur de tomber. Et c'est quand même, c'est trépidant. C'est la vibration est liée, oui.
En tout cas, où que nous ayons été, nous avons aussi pu constater, Marie-Agnès, que le commerce était très actif, notamment le commerce des femmes.
Oui, justement, derrière cette écologe, il y avait un village de tentes qui accueillait des femmes qui vendaient des productions sénégalaises, tout ce qui est fait à partir de la corne de zébu. Il y a beaucoup de zébu.
À partir des coquillages.
Voilà, à partir des coquillages, des petits objets en bois, que ça soit pour les cheveux ou alors des petits objets représentant des animaux, un genre de raffia, des objets en cuir également. C'était très très varié au niveau de l'artisanat.
En tout cas, voilà beaucoup de propositions de ces femmes pour qui c'est souvent une ressource assez lucrative.
L'impression, je pense que c'est la réalité, c'est elles vivent, la vie de leur famille est assurée grâce à cette vente aux touristes occidentaux que nous sommes. Donc elles viennent nous chercher, elles sont très désireuses de faire travailler leur commerce.
Nous allons nous retrouver, Marie-Agnès, la semaine prochaine pour écouter à nouveau des impressions poétiques de ce pays du Sénégal. Et nous entendrons aussi une vision là du guide sénégalais de son propre pays et des touristes qui viennent de visiter. Au revoir.
Au revoir, merci Guylaine.
L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+. Thank you.